Bonjour, bienvenue dans le débat de midi sur France Inter. Et aujourd'hui, nous sommes dans un petit village médiéval de la Drôme provençale, à Rochefourchat. Ici, tout est charmant, verdoyant. La petite église, les maisons en pierre, les champs de lavande, c'est l'endroit que tous les citadins fantasment. Et pourtant, nous sommes dans le village le moins peuplé de France. Ce paradis au bout du monde compte, en tout et pour tout, une seule habitante. Dans ces territoires, le sentiment d'abandon public est croissant. Et pourtant, selon un sondage commandé par Famille Rurale, 81% des Français rêvent de vivre à la campagne. Y a-t-il un mythe de ce retour au village? Avec la flambée des prix en ville, les canicules et le télétravail qui se généralisent, les néo-ruraux, car c'est désormais leur petit nom, tentent l'aventure de l'exode urbain. Vont-ils déchanter ou au contraire voir les villages se réenchanter? La campagne est-elle en train de prendre sa revanche? On en débat jusqu'à 13h sur France Inter.
Paola Puerari. Le débat de midi sur France Inter.
Et pour ce débat sur les campagnes, j'ai à ma table une femme qui tente de redynamiser les territoires. Bonjour Virginie Hills.
Bonjour Paola.
Après 15 ans passés dans l'agroalimentaire, vous avez tout quitté pour fonder Comptoir de campagne, des tiers-lieux qui visent à retisser du lien social. Et dans ce studio aussi, deux sociologues avec nous. Jean Viard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et au CEVIPOF et vous êtes en ligne avec nous depuis la Bretagne. Et bonjour aussi à Yael Amsalem Mingui. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes intéressé aux filles du coin, à celles qui restent dans une vaste enquête. Et pour ce grand déménagement supposé, en tout cas entre ville et campagne, nous avions évidemment besoin d'un géographe. Bonjour Michel Lusseau.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'école urbaine de Lyon, là où vous vous trouvez actuellement. Et on commence tout de suite par le témoignage d'une auditrice, d'une citadine, qui va faire le grand pas le mois prochain.
Je m'appelle Hortense, j'ai 36 ans et dans un peu moins d'un mois, on va quitter Paris avec mon mari et ma petite fille pour une nouvelle vie à 45 minutes de Paris dans un petit village, au vert, dans une maison, sans voisins, sans bruit. Vraiment, c'était un des critères les plus importants pour nous, enfin en tout cas pour moi, pouvoir me débarrasser de toute cette pollution sonore et de toute cette ambiance que je ne supportais plus depuis maintenant quelques mois, voire quelques années. J'avoue que je n'ai aucune crainte de ce grand saut et j'en ai vraiment très très hâte. Je compte les minutes.
Merci à Hortense pour son témoignage. Bon déménagement dans les Yvelines et je vous invite aussi à réagir, chers auditeurs, en direct pendant cette émission. Alors on a entendu Hortense qui n'a aucune crainte. Virginie Hills, vous qui sillonnez la France, vous voyez ces néo-ruraux arriver avec beaucoup d'images dans la tête. Est-ce qu'elle ne risque pas de déchanter, Hortense ?
Alors, je pense qu'elle a raison, Hortense, d'aller déménager et de découvrir de nouveaux horizons. Ces villages de France sont magnifiques, on a un territoire qui est merveilleux en France, donc je trouve que c'est normal qu'on arrive à étaler un peu la population et qu'on vive dans des qu'on s'entasse pas dans les villes. Mais néanmoins, il est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de communes qui sont en absence de services, en absence de lieux de vie, d'échange, de partage et de place de village, et souvent, effectivement, le village rêvé et parfois un peu du plomb dans l'aile, on va dire. Et effectivement, il y a des territoires qui nous disent qu'il y a beaucoup de gens qui retournent vivre dans leur village, des populations qui s'implantent, mais qui après sont déçus parce que il y a plus de vie dans ces villages. Ça peut être des villages dortoirs et qui parfois quittent à nouveau ces territoires ruraux. Alors que il y a des envies, donc il faut qu'on recrée les conditions pour que ces villages revivent et soient agréables pour accueillir ces populations.
Michel Lusseau, en tant que géographe, est-ce qu'il existe un mythe du retour à la campagne ?
Oh oui, et ce mythe est très ancien en fait. C'est intéressant de voir que l'expression de néo-ruraux a désormais plusieurs décennies derrière elle. C'est dans les années 60-70 qu'on commence à diagnostiquer un mouvement qui était un mouvement différent de celui de l'exode de la population rurale qu'on avait connu à partir de la fin du 19e siècle et qui avait vu constamment les communes statistiquement rurales perdre des habitants, parfois se vider presque totalement, voire pour quelques-unes disparaître. Et dans les années 60, on commence à examiner très sérieusement, et bien tout simplement ce qu'on appelle la périurbanisation et l'urbanisation à longue distance et le concept de renaissance rurale, de néo-ruralité, de rurbanité, c'est-à-dire on mélange l'urbain et le rural pour créer un néologisme, date des années 60-70. Et depuis ces années-là, on constate une situation qui qui peut être caractérisé de façon assez simple. L'urbanisation est très puissante en France. La France est par ailleurs un pays qui connaît une croissance démographique, donc où il y a des besoins de logements très, très importants. Et cette urbanisation va redistribuer tous les territoires et va peut-être aussi nous faire changer d'époque, c'est-à-dire nous faire sortir de ce moment où on pouvait facilement opposer les villes et les campagnes comme deux espaces géographiques et deux sociétés très différentes. Finalement, on pourrait dire que le néo-rural, c'est un habitant urbain qui vit dans un contexte urbain différent de ceux des espaces de centre et de forte densité, et que aujourd'hui, la plupart des néo-ruraux sont en fait des personnes qui, même si elles manifestent des désirs de s'éloigner des autres, comme le témoignage que vous avez passé à l'antenne le montre, et parfois cela évidemment pose toute une série de problèmes ensuite, eh bien ces néo-ruraux restent très connectés à la vie urbaine, ne serait-ce que parce qu'ils télétravaillent, parce qu'ils ont des besoins de mobilité, des besoins de consommation qui les maintient en quelque sorte dans cette urbanisation qui a gagné pratiquement l'intégralité du territoire. Alors il n'en reste pas moins que ces néo-ruraux habitent dans des espaces qui ont des caractéristiques très différentes, des espaces de centre et de banlieue les plus denses, et que ces besoins ne sont pas toujours bien satisfaits dans la mesure où l'économie agricole a complètement changé depuis 60-70 ans. Jadis, les villages étaient entièrement tournés autour de l'économie agricole. Ils fonctionnaient grâce à l'économie agricole. Et puis, dans la mesure aussi où les services publics ont connu l'évolution qu'on sait et qu'ils sont de plus en plus éloignés.
Yaem Amsalem Mingui, avec votre enquête, donc vous avez rencontré les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural. Justement, comment est-ce que ces jeunes femmes voient l'arrivée de ces néo-ruraux ?
En fait, bon, déjà, elles ne les appellent pas les néo-ruraux, hein, c'est une catégorie plutôt adulte, plutôt institutionnelle. Elles vont les nommer, elles vont les caractériser par ce qui va les distinguer. Elles vont pas mal, alors notamment dans un des territoires où j'ai pu enquêter dans le cadre de cette enquête, ça a été le bar des gens aux pieds nus. Parce qu'ils ont des pratiques, parce qu'ils ont un capital culturel, un capital parfois économique équivalent, mais un capital culturel qui est très différent et qui va se jouer sur les codes, sur les manières d'être dans des espaces, dans des bars associatifs dans lesquels elles ne vont pas pouvoir se retrouver. Et donc, il va y avoir d'un côté des filles du coin qui vont regarder cet endroit-là, où il y a aussi des jeunes qui viennent d'arriver, mais qui ne se mélangent pas parce qu'ils ne viennent pas aussi se fondre et se trouver une place dans les sociabilités traditionnelles, dans les fêtes plus traditionnelles, comme les fêtes de village, les lotos, les bals, enfin tout ce qui peut exister ou continuer d'exister. Et donc, elles vont les regarder aussi de loin sans se sentir légitimes pour pouvoir rentrer dans ces endroits-là, où elles ne comprennent pas, elles n'ont pas les codes. Et elles trouvent ça très étrange de se balader pieds nus, quand même.
Oui, ça c'est étrange. Et justement, en fait, votre témoignage résonne avec le message d'une auditrice qui, elle aussi, pense que cette adaptation est assez difficile à la campagne.
Bonjour France Inter, merci pour votre émission. Le phénomène de la néo-ruralité est parfaitement compréhensible. Mais s'il vous plaît, ex-citadins venus vous installer à la campagne, adoptez de nouveaux comportements. Répondez à nos bonjours plutôt que de nous toiser comme des bêtes curieuses. Acceptez le chant du coq, le braiement de l'âne et la mélodie du clocher. Préservez chaque centimètre de terrain précieux plutôt que de troquer la haie végétale pour élever des fortifications d'Alcatraz. Vivre dans la ruralité, ce n'est pas seulement avoir plus d'espace chez soi et plus de verre à sa fenêtre. C'est aussi vivre avec la nature, adhérer à une autre philosophie de vie et de nouvelles valeurs.
Alors, de nouvelles valeurs, j'en viens justement. Est-ce qu'il y a un mode de vie du village à respecter quand on vient habiter à la campagne ?
C'est compliqué parce que ça dépend des régions, des territoires et des époques. Si vous voulez, moi je suis un vieux baba de 68, je suis allé m'installer à la campagne en 68, j'y habite toujours, et dans le sud de la France. Donc là, si vous voulez, vous voyez, des gens qui sont arrivés il y a longtemps, donc c'est nous qui avons créé les crèches, c'est nous qui avons, etc. Donc au fond, la société s'est réorganisée dans notre relation avec, j'allais dire, les gens du coin, qui d'ailleurs souvent étaient des enfants d'Arméniens, d'Italiens ou d'Espagnols. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, la population mobile. Mais c'est pas vrai partout. En ce moment, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont s'installer, prenez la Bretagne par exemple, dans des régions où il y avait peu de gens qui s'installaient. Au fond, ils découvrent aujourd'hui ce qu'on a vécu en Provence il y a 50 ans. Mmh. C'est-à-dire l'arrivée de nouvelles populations, des codes un peu différents, etc. Mais il ne faut pas être caricatural, parce que ce qu'a dit Michel Lussault est très juste. C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a Internet, il y a Amazon, il y a Airbnb, il y a le TGV, il y a les autoroutes. Et donc, si vous voulez, il y a toute une France, j'allais dire, du numérique, ou de rapport rapide, une France de la mobilité qui se diffuse dans le territoire. La dame du début qui parle d'être à 45 minutes de Paris, c'est une grande banlieusarde, quoi. Simplement, effectivement, elle vit à la campagne, elle lutte contre le bruit, qui est l'enjeu majeur dans les villes, mais au fond, elle va aller à Paris quand elle veut. Et c'est le cas de la majorité des gens. C'est très différent si vous allez sur l'Aubrac.
Néanmoins, vous dites qu'il ne faut pas être caricatural, mais ce message d'une auditrice dit quelque chose, quand même, de ces gens citadins qui viennent dans la campagne sans en accepter la philosophie.
Oui, mais elle dit aussi qu'à la campagne, on aimerait la nature, etc., ce qui n'est pas forcément vrai. À la campagne, ils ont un désir de technique, ils ont un désir voir les agriculteurs, etc. Ils ont envie d'être modernes.
Donc il ne faut pas opposer ces territoires.
Non, l'idée du bon paysan qui aimerait la nature et de l'urbain qui serait dans la caricature, c'est un peu faux parce qu'au fond, celui qui est le discours sur la nature, on le voit bien en agriculture, il vient plutôt avec les néo-ruraux. C'est plutôt eux qui sont pour une agriculture biologique, pour des AMAP, pour de la vente directe, etc. Et toute la question, c'est le rapport entre les deux, si vous voulez. Mais on ne peut pas dire, parce que vous savez, les jeunes des campagnes, les de Salomé Berlu le montre très bien. Ceux, je dirais, qui sont des ruraux de deux ou troisième génération, pour le dire comme ça.
D'accord.
Ils ont un territoire plus réduit. Et au fond, eux, la ville, pour eux, c'est la sous-préfecture. Et la grande difficulté, c'est de leur ouvrir le monde plus loin. Alors que les gens qui viennent de la ville, ils ont un rapport différent, mais ils sont venus depuis 50 ans. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous voyez, ça vient pas d'arriver. Le néo-ruraux, c'est un terme qui a été inventé par Bertrand Hervieux et Daniel Hervieux-Léger, dans un ouvrage qui s'appelait Le retour à la terre, à la campagne. Et donc, si vous voulez, au début des années 70, l'a dit Michel. Et donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut bien voir. On est un demi-siècle après le début de ce processus, dans une période de relative accélération, parce que Paris perd 10 000 habitants par an depuis 10 ans, sans doute 50 ou 80 000 de plus depuis la grande pandémie, les chiffres sont pas. Et puis surtout, le télétravail fait que les 4 millions de résidents, de familles qui ont une résidence secondaire, il y en a beaucoup qui vont passer peut-être 4 jours par semaine à la campagne et 2 jours en ville. Donc là, vous avez un énorme mouvement, si vous voulez, de mobilité à l'intérieur du monde du travail qui joue beaucoup et qui change les pratiques.
Et qui change tout à fait les pratiques puisque Virginie Hills, une ville sur deux en France, n'a plus de commerce et se transforme en cité dortoir. Ce constat, quand est-ce que vous l'avez fait ?
Alors, je l'ai fait en 2013, et c'est les statistiques, et même maintenant, on parle de 60% dans les nouvelles données INSEE, donc c'est hyper important. Et pour réconcilier un peu tout le monde, moi, je suis d'accord, je pense qu'il ne faut pas... mettre les gens les uns contre les autres, les profils sociodémographiques de la ville, de la campagne sont assez proches. Mais en revanche, ce qui fait qu'il y a ce sentiment de différence entre les ruraux, les ruraux, c'est qu'en fait les gens ne se croisent plus, en fait, qu'ils n'ont plus l'occasion de se croiser. Moi, les maires me disent, j'ai de plus en plus de gens qui viennent vivre dans mon village, mais en fait ils habitent dans le village, ils habitent même plus précisément dans les lotissements périphériques au village. Ils ne vivent pas dans le village. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de lieu, pas d'endroit. Alors oui, il y a les associations, mais qui souvent concernent les gens qui sont là depuis longtemps. Les néo-ruraux n'ont pas forcément cet accès-là ou le réflexe d'y aller. Et donc, ils restent chez eux le soir et rentrent tard. Et donc, en fait, il faut des lieux où les gens se rencontrent.
Et c'est justement pour ça que vous avez créé Comptoir de Campagne. Alors racontez-nous.
Alors Comptoir de Campagne, donc c'est justement ces lieux où les gens se rencontrent et se rendent compte qu'ils ne sont pas si différents, en fait, voire même qu'ils sont semblables. Donc notre principe, c'est quoi ? C'est de remettre des commerces dans les villages, des commerces multiservices. Donc il y a dans un comptoir de campagne, si vous venez, je vous invite à venir en visiter, on en a beaucoup en Rhône-Alpes. Vous avez une épicerie locale avec des produits locaux en circuit court pour faire toutes ces courses du quotidien. Vous avez des services de proximité. Donc souvent on a la poste par exemple, le gaz, les colis, le retrait d'argent, la Française des Jeux, la presse, et puis des espaces bistrot, salon thé, snacking pour prendre un morceau, pour manger un morceau, boire un verre et participer à des événements.
C'est une petite France en fait.
C'est une place de village. On dit qu'on refait battre le cœur des villages. Donc on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et notre objet social, notre mission, c'est de revitaliser les territoires ruraux et on le fait à travers cette offre de commerce multiservice qui crée du lien social, qui valorise la production locale et artisanale, et qui ramène des services dans ces lieux où il n'y en a plus.
Oui, parce que c'est un peu un service public aussi.
Alors oui, on peut aller jusque-là, effectivement, quand on travaille notamment avec la Poste, c'est un partenariat que l'on a avec cette institution, c'est perçu comme un service public par les habitants. On essaie d'aller vers des services de portage de médicaments, on essaie d'avoir dans nos espaces également des infirmières, des podologues, etc. Donc voilà, tous les services dont les gens ont besoin et dans un lieu qui est un lieu de vie où les gens se croisent. On a une mère qui nous a dit, moi j'ai hâte qu'il y ait un comptoir de campagne, notamment parce parce que j'ai le sentiment que les gens ne se supportent plus. Voilà, et je veux juste qu'ils apprennent à se reconnaître, à se connaître.
Yael Amsalem Mingui, vous qui avez donc rencontré ces jeunes femmes dans quatre coins de la France, c'est ça? Est-ce qu'elles manquent de ce lieu de vie, justement?
Ben, en fait, ce qui se passe beaucoup dans cette enquête, c'était l'idée de travailler sur quatre espaces ruraux parce que la ruralité française n'existe pas. Il y a une hétérogénéité des espaces ruraux comme on observe une hétérogénéité des espaces urbains. Et donc, on ne peut pas homogénéiser le milieu rural comme s'il était préexistant de par juste le fait qu'il soit rural. Et donc, l'idée, c'était de travailler sur deux intercommunalités où il y a pas mal de tourisme et où on dit souvent que c'est une aubaine pour les jeunes parce que ça va leur permettre de travailler, de rencontrer d'autres gens. Et puis, deux autres intercos, une plus encore avec de l'activité industrielle et puis l'autre très, très désindustrialisée. Et de travailler sur toutes ces filles finalement qui ne bougent pas et qui n'ont pas envie de partir de là où elles habitent et qui vont rendre compte de rapports sociaux de classe, de rapports de sociaux de genre, de rapports de sociaux d'âge dans leur vie quotidienne. Et donc c'est là où on voit arriver en fait des enjeux vraiment importants de rapports de pouvoir dans les populations avec les notables locaux qui ont finalement des capitaux économiques différents mais qui ont des pratiques sociales assez proches des classes populaires qui sont très majoritaires dans les espaces ruraux français. Et puis, un autre élément qui ressort beaucoup, en tout cas, des quatre territoires, c'est ces filles qui veulent rester, qui restent, ces filles qui restent, hein, pour faire écho à l'ouvrage de Benoît Coquart qui s'appelle « Ceux qui restent ». Donc là, c'est celles qui restent. C'est aussi l'importance de ne pas quitter leurs espaces de vie, leur réseau de sociabilité dans lequel elles ont leur quotidien. Et donc, par contre, elles vont, et là, ça fait écho à ce qu'expliquait tout à l'heure, c'est elles font écho à l'absence de services publics, et ça dès très jeune, en fait. On va avoir des filles de 14 ans, 15 ans, qui vont pointer l'absence de services publics, dans lesquels elles vont clairement définir le service public comme étant à la fois la boulangerie, la gynéco, l'infirmière, mais aussi, finalement,
l'absence de services publics, mais de lieux aussi pour se rencontrer, finalement, de café, de bar.
Ouais, alors sur les lieux, c'est encore différent. Parce que quand on est jeune, il y a quand même tous les rapports de genre avec où est-ce qu'on peut aller quand on est une jeune fille par rapport à où est-ce qu'on peut aller quand on est un jeune homme. Qu'est-ce qui est socialement accepté et acceptable? Est-ce qu'il y a un débit de boisson alcoolisé ou pas? Enfin voilà, tous ces enjeux-là qui vont faire aussi des commérages locaux. Donc il y a l'envie d'avoir des espaces juvéniles, de pouvoir aussi se construire avec l'image aujourd'hui contemporaine de la jeunesse, avec des endroits où on peut boire du chocolat chaud avec de la mousse, pour pas citer de marque, mais en même temps sans avoir cet endroit-là parce que ça ferait venir des gens qu'on connaît pas. Donc voilà, toutes ces tensions, et les filles passent beaucoup de temps à bouger finalement les unes chez les autres. Elles vont dans des endroits, se retrouver aussi leurs alter ego masculins dans des maisons abandonnées ou quand les parents sont pas là, alors ce qui a posé pas mal de problèmes quand les parents ont perdu leurs emplois et ou quand il y a eu les enjeux Covid où d'un coup les parents étaient tous là. Donc il fallait se réorganiser dans les sociabilités juvéniles par exemple.
Alors, Virginie Hills, qui vient dans vos comptoirs de campagne?
Alors, ce qui est chouette, c'est que tout le monde vient dans un comptoir de campagne pour des raisons diverses. Certains néo-ruraux vont vouloir, urbains bobos vont vouloir faire toutes leurs courses de produits locaux parce qu'ils y croient que c'est important pour eux. D'autres vont venir juste pour le petit café du matin, le journal, voir le ticket de grattage, voir certains qui veulent vraiment pas venir, ils vont venir parce qu'ils ont reçu un recommandé et qu'ils n'ont pas le choix. Voilà, donc ça, c'est ça un peu notre magie. Notre sauce magique, c'est que tout le monde vient dans un comptoir de campagne pour plein de choses. Et du coup, tout le monde participe à sa manière au modèle économique et tout le monde participe à sa manière à la vie du village.
Comment ils participent, pardon?
Ils participent en dépensant un peu leur argent.
Ils peuvent proposer des services aussi?
Oui, bien entendu. On travaille beaucoup avec les associations. Et ça aussi, c'est un lieu qui est un lieu dont se saisissent les associations. Par exemple, on fait des événements intergénérationnels. Vraiment, l'idée, c'est de mixer les populations. Donc, on fait des soirées jeux de société pour les jeunes et pour les seniors, des ateliers tricot, des concerts. Moi, j'ai participé à des concerts où on danse entre les rayons. Voilà. Et puis, chaque village, en fonction de sa vie, en fonction de ses associations, en fonction du gérant, va développer telle ou telle activité plus qu'une autre. Voilà, on fait des marchés paysans, des dégustations de producteurs, et on a ces espaces qu'on appelle les salles rendez-vous, dans lesquels on peut avoir esthéticienne le lundi, coiffeur le mardi, sophrologue le mercredi, prof de yoga le jeudi, et souvent ce sont les habitants qui ont développé une activité et qui viennent bénéficier de cet espace-là.
Est-ce que ça entraîne l'ouverture d'autres commerces? Alors, est-ce qu'avec la vie revient encore?
Oui, alors, en tout cas, ce que nous disent les maires, c'est que quand on installe un comptoir de campagne, le village revit. Les associations se remettent à faire des événements. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a tout gagné. On passe des questionnaires tous les ans à nos clients et le premier élément qui remonte quand on leur dit qu'est-ce qu'a apporté Comptoir de Campagne à votre village, THC, ça a ramené de la vie. Voilà. Et ça, on a tout gagné quand on a fait ça.
Michel Lussault, est-ce que ce qu'on appelle donc des tiers-lieux, ça peut révolutionner la vie de ces derniers kilomètres ?
En tout cas, ce qu'on entend là depuis tout à l'heure est très intéressant. On montre d'abord que les situations territoriales et sociales se sont complexifiées, hein, et que nous avons des vies de plus en plus paradoxales. C'est-à-dire, on peut être à la fois villageois et citadin. On peut à la fois être exclu et inclus dans des réseaux de sociabilité. On peut à la fois vouloir fuir ses voisins et aspirer à des lieux de lien social. Et ce que cela montre aussi, c'est que depuis maintenant une quarantaine d'années, dans les centres-villes, comme dans les espaces périurbains, comme dans les espaces qu'on appelle là néo-ruraux, la proximité s'est affaiblie, la proximité a disparu. En raison de l'affaiblissement des services publics, qui est constatable partout en France, hein, à Paris, les services publics se sont affaiblis, aussi pour des raisons de contraintes budgétaires. Évidemment, quand vous êtes au cœur d'une grande ville, il y a la possibilité toujours plus facile d'accéder à un service, mais ils se sont concentrés, ils ont disparu, et le besoin de trouver des lieux de service et de proximité est fort partout, parce que en ville comme dans les espaces villageois, eh bien, on a l'impression que ce que l'on appelle en sociologie l'anomie, c'est-à-dire l'absence de lien social, l'absence de contact, a progressé, en raison même des vies contemporaines que nous avons à vivre. Et ce besoin de lieu, on le retrouve partout, absolument partout. On le retrouve dans les espaces denses comme dans les espaces villageois. Mmh. Et ce que a montré Virginie Hill, c'est intéressant, parce que ce qu'elle propose, c'est exactement ce que propose, par exemple, un tiers-lieu que j'observe au cœur de Lyon, qui fonctionne exactement sur les mêmes principes. Il y a ce même besoin de retrouver des lieux où l'on peut faire du lien et où on peut éventuellement faire du lien, soit que les jugements sociaux ou les contraintes sociales soient trop excessifs, parce que c'est cela aussi dont nous avons peut-être besoin, c'est-à-dire d'espace où les sociabilités s'allègent un peu des relations de pouvoir, de genre et de groupes sociaux qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc je crois que ça mène plutôt l'analyse vers la volonté de ne pas opposer des situations territoriales, donc il n'y a pas de revanche des uns sur les autres, mais bien plutôt comprendre des processus sociaux et géographiques à l'œuvre depuis 50 ans au moins en France, et qui ont recomposé complètement les territoires et la manière que nous avons de les habiter.
Eh bien, restez avec nous, puisqu'on va continuer ce débat. Restez avec nous tout proche, donc dans la plus grande proximité, et on va se demander s'il existe un âge pour vivre à la campagne, un bon âge, puisqu'il y a ceux qui partent, ceux qui restent, ceux qui reviennent. Et nous serons en ligne tout à l'heure avec Hugo Biollet, le plus jeune maire de France, qui se donne pour maintenir en vie son petit village d'Ardèche.
Perdu dans le cœur des foules, rien à faire là. Vos sirènes, vos sons me saoulent, je n'ai rien à faire là. Oh chérie, dis-moi quand tu viens. Oh chérie, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Tout est chaleur humaine, que tout est chaleur humaine. Porte froid, porte froid. Noyé dans l'enfer des chiffres, je ne sais qu'en faire. On dirait que ma tête d'affiche s'en va boire un verre. Oh maman, dis-moi quand tu viens. Maman, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Que tout est chaleur humaine, que tout est chaleur humaine. Porte fruit, porte fruit. Oh, porte fruit. J'attends dans la brume du soir, l'apocalypse. Chaque fois je crois le voir, et puis elle s'est l'éclipse. Oh mon frère, dis-moi quand tu viens. Ouais mon frère, dis-moi quand tu viens. Retour à la terre, retour en arrière. Que toute cette chaleur humaine, que toute cette chaleur humaine porte fruit, porte fruit, oh porte fruit.
C'était Nicolas Michaud, Chaleur humaine.
Le débat du midi. Sur France Inter.
Et on est toujours ensemble jusqu'à 13h sur France Inter pour interroger la vie à la campagne, nouvelle Eldorado, toujours en compagnie des sociologues Yael Amsalem Mingui et Jean Viard, du géographe Michel Lusseau et de la fondatrice de Comptoir de campagne Virginie Hills. Et on poursuit ce débat en se demandant s'il y a un âge pour vivre à la campagne, puisqu'il y a ceux qui restent, ceux qui partent, ceux qui y retournent et les jeunes qui veulent partir à tout prix. On a reçu le message d'une auditrice qui s'appelle Margot.
Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 22 ans et j'ai grandi à la campagne. Et c'est vrai que quand j'étais adolescente, c'est quelque chose que j'ai trouvé très difficile. J'habitais dans un tout petit village et je me sentais vraiment loin de tout et très isolée. Je pouvais pas aller voir mes copines quand je voulais, fallait que je demande à mes parents. Du coup, on a un sentiment de dépendance, d'isolement. Je pouvais pas aller au cinéma, je pouvais pas aller au théâtre comme je voulais. Et c'est quelque chose qui pèse beaucoup quand on est une jeune femme et quand on est jeune tout court à la campagne.
Merci Margot et je vous invite aussi à réagir, à nous envoyer vos messages sur l'application France Inter à la page du débat de midi. Yael Amsalem Mingui, vous êtes l'auteur d'une grande enquête donc publiée aux presses de Sciences Po, Les filles du coin, grandir et vivre en milieu rural. Comment résonne ce témoignage de cette auditrice?
Elle rejoint beaucoup ce que j'ai pu entendre pendant l'enquête et ce qu'on va retrouver sur les enjeux d'isolement, dépendance, alors qui est partagé par une grande partie des adolescents et des adolescentes, mais qui est exacerbé pour les filles, puisqu'elles vont avoir moins souvent la chance d'avoir un deux roues motorisé, donc un scooter, une moto. Les parents vont confier ça davantage aux garçons, ils vont financer davantage le permis de conduire à leurs garçons, les filles vont se payer le permis de conduire et avoir la voiture plus tard, alors que les garçons vont parfois bénéficier de la voiture avant même d'avoir le permis, parce que c'est on change de voiture, on le file à son garçon, voilà, l'histoire de cousinade. Donc voilà. Et puis il y a toutes les représentations du genre sur l'espace public, la route comme étant un lieu à risque, à danger davantage pour les femmes, qui vont les isoler et participer à leur sentiment d'isolement. Et puis clairement, c'est compliqué de faire du stop quand on est une fille, c'est compliqué parce qu'on a peur des violences sexuelles, parce qu'on a grandi dans cette peur des violences sexuelles. Et donc même si on s'engage vis-à-vis des parents à ne pas faire du stop, typiquement moi dans l'enquête, il y a des filles comme ça qui ont promis qu'elles feraient pas de stop, elles ont fait du stop parce qu'il fallait bien rentrer d'une fête. Manque de bol, c'est le maire du village qui les a prises en stop. Là, la confidentialité s'est terminée.
Mais évidemment. Donc, ces jeunes femmes que vous avez rencontrées, donc celles qui restent, est-ce qu'elles font choisement sciemment le choix de rester? Excusez-moi.
Alors, elles font le choix de rester au moment où moi je les rencontre. Elles ont entre 14 et 25 ans. Donc, cette question du choix de rester, elle est aussi liée à l'orientation scolaire. Elles vont aller vers des orientations plutôt de proximité. Elles aspirent pas et elles se projettent pas non plus dans des orientations scolaires qui sont loin. Mais c'est aussi parce que j'ai enquêté sur les femmes, des jeunes femmes des classes populaires, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens économiques, dont les familles n'ont pas les moyens économiques non plus, de pouvoir surinvestir ou se projeter dans un investissement économique et familial sur le départ de leur fille vers des... Je dis pas que c'est pas possible, mais c'est juste que c'est plus compliqué. Et donc, on va voir combien, finalement, elles vont rester, être contentes de rester, vouloir rester, pas à n'importe quelle condition. Quand on a discuté de se projeter un peu quand on sera grande et tout ça, quand on sera... Voilà, quand elles ont 15 ans, quand elles ont 17 ans, c'est... Ah, mais je préférerais habiter au centre-bourg. Et en fait, cette importance des bourgs...
C'est le bourg, le rêve.
Alors, c'est le bourg parce qu'on connaît mais aussi parce que d'abord, on peut faire des choses à pied et qu'on n'a pas toujours besoin d'attendre un bus qui passera pas, d'attendre un car qui n'existe pas, ou de profiter d'un car qui existe que pendant la période touristique, c'est-à-dire juillet, août, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur et donc d'un seul coup, on montre qu'on peut développer des choses qui n'existent pas au quotidien. Donc le bourg, oui, le bourg, c'est là aussi où on peut tout faire en étoile et on peut rejoindre la grande ville, la grande ville dans laquelle on va se balader, la grande ville dans laquelle on n'habite pas, mais qu'on peut quand même fréquenter pour relier aussi avec les codes juvéniles de consommation, de balade, d'anonymat, du besoin d'anonymat qu'on a toutes et tous aussi.
Et quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent ?
Alors, dans leurs difficultés, il va y avoir... Alors, il y a les transports, oui, forcément. Il y a les enjeux autour de l'emploi. Et typiquement, alors, on sait, les femmes, de toute façon, sont dans des emplois moins qualifiants et moins qualifiés que les hommes. Et on va voir que les filles, même si elles réussissent davantage à l'école, elles sont malgré tout dans des emplois moins qualifiants que les études qu'elles ont pu faire ne leur permettraient d'accéder. Donc, ce qui ne va pas non plus vers... une tendance à vouloir se surpasser niveau scolaire, puisque de toute façon, les emplois disponibles localement sont moins qualifiés. Et puis, elles vont être embauchées dans des emplois en intérim, à temps partiel, subi, c'est pas du temps partiel choisi, et à du temps fractionné, qui va aussi compliquer l'accès à tout un tas de services, à tout un tas d'offres, comme peut le faire ce que développe Virginie, typiquement. Puisque le temps fractionné, typiquement, je prends le planning d'une des jeunes femmes, où elle embauche à 6h, elle débauche à 10h30, elle réembauche à 13h, elle redébauche à 15h, elle réembauche à 18h, elle redébauche à 21h. Mmh. Enfin, clairement, pendant tous ces temps-là, elle n'a pas le temps de revenir chez elle, elle n'a pas le temps de faire autre chose. Elle a juste le temps de rester dans sa voiture. L'essence, ça coûte cher. Et donc, elle reste dans sa voiture à regarder des trucs sur YouTube avec ses collègues. Donc, elle se tape des bonnes barres de rire, heureusement. Mmh. Mais ça n'empêche que ça participe dans un enjeu de tension économique et de contexte de classe populaire.
Mais c'est vrai que sans voiture, c'est très compliqué, et surtout de venir dans le nord de l'Ardèche, puisque justement nous sommes en ligne avec un jeune homme qui s'engage pour son village et qui a fait le choix de rester, puisqu'il est devenu maire à seulement 22 ans. Bonjour Hugo Biollet.
Bonjour.
Vous êtes le plus jeune maire de France à la tête d'une commune de 500 habitants, Vinzieux en Ardèche. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire ce village ? Est-ce qu'on y vient facilement ?
Alors, si je dois décrire ce village, justement, je dirais que c'est un village dans lequel on ne passe pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie d'y aller pour pouvoir y être. Parce que malgré le fait que l'on soit... géographiquement situé, on va dire, à 45 minutes de plusieurs aires urbaines, en fait, il y a toujours deux points. Quand on veut aller d'un point A à un point B, il y a toujours possibilité de faire ça plus facilement en passant par une autre route. Donc, quelque chose d'assez encaissé, on va dire.
D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes engagé si jeune en politique ?
Alors, pourquoi je me suis engagé ? Moi, c'est... Vinzieux, c'est un village dans lequel j'ai grandi, que j'ai vu grandir avec moi et qui a beaucoup grandi. Quand j'y suis arrivé, il y avait 250 habitants. Maintenant, on est 500, 20 ans plus tard. Je voyais un potentiel assez incroyable d'un village qui était sur le fil. C'était un peu le sujet du début de l'émission. Où est-ce que l'on va devenir un village dortoir, ou est-ce qu'on va réussir à créer de la vie, à créer un certain dynamisme et à créer des choses dans ce village-là? Et je voyais ce potentiel dans ce village. Et j'avais envie...
Mais par exemple, il y a une école, il y a un commerce à Vinzieux?
Alors... Vinzieux, quand je suis arrivé, c'était plus d'école depuis 25 ans, plus de commerce depuis 50 ans. Et aujourd'hui, on a eu la chance, en tout cas, on a travaillé pour mener un premier projet. Et là, on a un premier commerce qui est ouvert depuis un an et demi sur la commune et qui apporte une vie des rencontres assez incroyable.
Quoi comme commerce ? C'est quoi comme commerce ?
Alors, on est sur un bar de village, bar à vin et épicerie locale.
Donc, en fait, vous faites renaître la vie aussi dans votre village ?
Exactement, c'est un lieu de centralité, un lieu de rencontre, un lieu dans lequel les gens se parlent, les gens se croisent. Et moi, j'ai vu l'avant et l'après dans le village, où je sens que maintenant, plusieurs parties du village qui ne se parlaient pas ont la possibilité de se croiser. Mais aussi, le village a la possibilité de rayonner et de faire venir des gens de l'extérieur et de créer de l'activité économique.
Est-ce que vous avez vu la sociologie de ce petit village agricole changer ? Est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants ?
Bien bien sûr, on est passé, je le disais tout à l'heure, de 250 à 500 habitants en une vingtaine d'années, en doublant, et forcément, on a vu différentes vagues de populations nouvelles, avec une sociologie nouvelle arriver, et avec ce village qui était d'abord en village minier, puis en village agricole, qui maintenant regroupe des salariés qui travaillent un petit peu dans la région, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'artisanat notamment.
Est-ce qu'il y a des jeunes alors qui restent comme vous au village ?
C'est un peu tôt pour le dire. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a énormément de jeunes. Vinzieux, et je veux casser ce mythe-là des villages. Vinzieux est un village très jeune, avec beaucoup d'activités et beaucoup de jeunes couples avec enfants qui sont venus s'installer. Et aujourd'hui, on a énormément de jeunes. On mène tout un tas d'actions, d'ailleurs, nous, municipalités. Et on se rend compte que les jeunes ont envie de partir faire leurs études, ont peur parfois de partir faire leurs études, mais sont aussi attachés à l'identité du village pour un grand nombre. Et on a cette envie d'y revenir, on a cette envie de pouvoir s'y investir plus tard, une fois que les études seront faites et qu'ils auront envie de se poser un petit peu dans leur vie.
Et justement, un auditeur veut absolument réagir à ce débat. Il a enregistré sa note en plein direct. Emma.
Et bonjour, moi je travaille pour Bouge ton coq et je voulais vous apporter un petit témoignage puisque nous on finance et on accompagne des projets dans les villages et on a notamment accompagné le montage de 150 épiceries participatives dans des communes rurales avec à chaque fois des réunions publiques où on a bien pu sentir, voir cette dynamique d'engagement qu'il y a dans les villages et vous dire que c'est que le début, qu'on va monter 200 nouvelles épiceries sur l'année qui vient et que on est convaincu que le village est l'échelon idéal pour mener des projets puisque les gens se connaissent, on fait les choses assez facilement avec bon sens, on a le maire qui se met au service des habitants de sa commune et donc que le village est vraiment le futur pour nous et que cette dynamique dont vous parlez, elle ne fait que commencer.
Virginie Hills, vous êtes d'accord, cette dynamique ne fait que commencer alors ?
Oui, effectivement, nous on a pour projet d'ouvrir 500 comptoirs de campagne dans les prochaines années parce que la demande est immense. Des solutions comme Bouge ton coq, on collabore avec sur des eux sont sur un format associatif. Voilà, donc c'est toutes ces belles solutions là qui ont vocation à ramener de la vie dans les villages. On voit aussi le commentaire d'Hugo Biolay qui dit que depuis l'arrivée de cette épicerie, le village revit. Voilà,
c'est ce qu'on c'est central en fait, cette question du lieu de vie.
C'est central, et exactement, et les gens en ont besoin, en ont envie, donc il faut accompagner. D'ailleurs, le gouvernement a pris conscience de ce sujet, il y a un plan ruralité qui a été lancé avec 65 millions d'euros qui ont été débloqués pour accompagner à la création de commerces ruraux. Comptoir de campagne fait partie des solutions qui sont labellisées pour accompagner la création de commerces.
Donc vous êtes aidé par l'État quand même dans cette aventure.
En tout cas, il y a cette envie, enfin, parce que ça date du mois de juin, hein, l'annonce d'Elisabeth Borne, il y a cette envie. Alors, on n'est pas aidé directement, mais il y a cette envie, en tout cas, et ils ont identifié des solutions comme la nôtre pour apporter cette solution au territoire ruraux, parce que c'est un vrai enjeu de cohésion sociale. Voilà, il y a un lien entre la perte de la dernière supérette et les nombres de mouvements gilets jaunes. Il y a une étude du Conseil d'analyse économique qui montrait que les communes qui ont perdu leur dernière supérette ont subi de manière significative plus de mouvements gilets jaunes que les autres. Donc ce sont des lieux de vie où les gens se rencontrent et où ils font société et donc ils ont moins peur des uns des autres et ils se sentent appartenir à un territoire, à une communauté de gens bienveillants. Avoir un commerçant dans un village, c'est quelqu'un de bienveillant qui est là pour vous apporter un service. Donc forcément, c'est sécurisant pour les gens. Voilà, donc cette envie, c'est vraiment d'aller répondre à ce besoin très largement avec notre solution.
Jean Viard, en tant que sociologue, est-ce que vous avez vu ce lien justement entre la perte d'un commerce et ce manque de cohésion sociale ?
Oui, non, mais ça, je crois que c'est tout à fait vrai. Et si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est que le monde rural, on est dans la culture du départ, si vous voulez. Et en fait, on n'est plus dans cette culture, quoi. Donc, il y a des gens qui arrivent, tout ça. Et ces gens, on l'a bien vu, là, depuis une heure, ils sont à côté les uns des autres. Et à un moment, il faut qu'il y ait un carrefour. Alors, le premier carrefour, c'est quand même l'école. On n'en a pas parlé, mais dans la plupart des communes, il y a une école. Dès qu'il y a une école, les parents d'élèves, les anniversaires, les ballons qu'on accroche aux arbres et tout, c'est un lieu de lien très important. Et puis, effectivement, après, après, il faut créer des lieux, mais qui ne sont pas des supérettes. C'est-à-dire que, au fond, on se fait tous livrer aujourd'hui. Il y a 21 millions de comptes chez Amazon, on a presque tous Internet, etc. Donc, on est tous d'un côté dans la livraison, et de l'autre côté, dans le local, dans la proximité, où là, effectivement, on va faire des choses, et y compris en mélangeant le privé et le public. Et du coup, les gens se reparlent parce que il y a une occasion de se parler, parce qu'on va, etc. Ça marche effectivement partout. On a créé 2600 tiers-lieux en France. On a créé aussi les 1000 cafés qui ont été mis en route par SOS. Donc, si vous voulez, il y a des tas d'initiatives partout, parce qu'au fond, il y a des nouveaux, quoi. Et donc, le lien entre ces populations ne se fait pas parce qu'on se croise dans la rue. Elle se fait parce qu'à un moment, on a une raison de se parler, on buve un café. Et c'est vrai que ça redonne de la vitalité. Non, là où j'habite, si vous voulez, moi j'habite dans le Vaucluse, il y a déjà longtemps que c'est comme ça. C'est-à-dire, la plupart des bars, par exemple, sont en fait municipaux. La plupart des, pas tous les restos, mais certains petits restos, les épiceries, plusieurs épiceries autour de chez moi sont des épiceries, les locaux sont municipaux. Donc, si vous voulez, il y a déjà un moment qu'on avait mis ça en route et qu'on l'avait pris en compte. Mais je crois qu'il faut bien se dire qu'on revient pas à la société d'hier. On est dans une société numérique où on se fait livrer la culture, le travail, des objets, etc. Et en même temps, une société de la proximité. Et c'est ça qu'on est en train de réinventer, c'est ce couple-là.
Michel Dussault, vous êtes d'accord? Ce couple-là est en train d'être réinventé?
Oui, totalement. Dans des sociétés mobilitaires comme les nôtres, dans des sociétés numériques, dans des sociétés où ça a été dit par le maire tout à l'heure lorsqu'il a insisté sur le fait que beaucoup de jeunes étaient arrivés avec des enfants, dans une société où les trajectoires tendancielles sont très liées aussi aux âges de la vie, hein. On va vers les villages, notamment lorsqu'on a une aspiration à trouver un jardin pour ses enfants, une maison plus grande. On peut y revenir aussi lorsqu'on est retraité. Il faudrait parler du rôle spécifique des retraités. On ne peut pas simplement reconstituer des lieux à l'ancienne. Ces lieux-là n'existent plus. Le village d'antan, il est mort parce que l'économie agricole qu'il portait a disparu. Ce sont donc de nouveaux types de lieux qu'il faut inventer, qui sont des lieux qui sont porteurs de toute la complexité des vies individuelles et de toute la complexité des parcours sociaux et familiaux. Et toutes les initiatives dont vous parlez participent de cette volonté de créer de nouveaux types de lieux, d'ailleurs avec des économies, Jean-Vier vient de le dire, qui sont souvent des modèles économiques très différents de ce que l'on connaissait jadis. Et encore une fois, c'est frappant et assez fascinant de voir que d'ailleurs c'est un mouvement mondial, c'est pas simplement un mouvement français, il faudrait en parler longuement. Et puis ensuite, c'est un mouvement qu'on trouve aussi dans des espaces très différents, qui ne sont pas des espaces villageois, où là aussi on cherche à inventer des lieux nouveaux. C'est d'ailleurs comme ça que le concept de tiers-lieu a émergé. Là aussi, on cherche à trouver de nouveaux modèles économiques. Là aussi, on cherche à trouver de nouvelles manières d'inclure des populations
et de
qui
nouvelles
sont
façons aussi de répondre aussi à la crise climatique, puisque Hugo Biolay, vous, en tant que jeune maire de France, eh bien, vous êtes très engagé dans la transition écologique. Est-ce que vous pensez que les villages sont un peu une planète B pour les citadins?
Je suis pas certain que cette notion de planète B soit la bonne notion, parce que en réalité la transition on la réussira si on n'oppose pas les villes et les campagnes et si on arrive à tirer le meilleur des deux. Et en particulier, je crois qu'il y a plusieurs crises, crise environnementale, mais qui est très liée en réalité avec un volet démocratique. Et ça me permet juste de rebondir quelques secondes sur les différents témoignages. La force des villages, c'est la proximité. Et en arrivant à créer des bouts de démocratie, et je le vois à Vinjul, je le vois ailleurs, je suis administrateur d'une association qui s'appelle INSIP, on envoie des services civiques dans des dizaines de communes rurales chaque année. On voit bien qu'on arrive à créer de l'envie chez les gens, de l'espoir chez les gens, et qui, du coup, derrière, nous permettent de traiter des questions environnementales en créant de la cohésion, en créant de la solidarité plutôt que de la division.
Eh bien, merci et bravo pour votre engagement, Hugo Biolay. Merci encore. On va continuer à se demander s'il fait bon vivre dans les campagnes françaises. Et on va parler de ce mot qui est sur toutes les bouches, la périurbanisation. Essayez de le dire, répétez-le pendant qu'on écoute Roger Pravida. Je vous le redis une fois, la périurbanisation.
Quem sofreu com a partida? Já passou.
France Inter, le débat de midi. Paola Puerari.
Et on est toujours ensemble jusqu'à 13h sur France Inter en train d'interroger la relation ville-campagne et nous avons reçu énormément de messages d'auditeurs. D'abord Wolfgang qui nous dit « Je vis à la campagne depuis 20 ans, loin de la ville, tout va bien ». Et Fabienne qui nous dit « L'arrivée de ces néo-ruraux dans les villages, ça signifie gentrification et bétonisation. En Dordogne, on nous dit la même chose, je vois débarquer des citadins en mal de renouveau, ils sont une source de conflits à l'avenir ». Et enfin Marie qui dit la première chose que les citadins ont fait quand ils sont venus s'installer, couper les arbres, couler des dalles de goudron et construire des murs. Virginie Hills, vous nous dites qu'il n'y a pas vraiment de tension, mais à en croire les auditeurs, ça provoque quand même pas mal d'inquiétude l'arrivée de ces citadins.
Mais c'est sûr que dans les villages, aujourd'hui, il y a trois types de populations. Il y a ceux qui sont depuis toujours, il y a les néo-ruraux qui viennent des villes un peu bobos urbains et qui parfois s'installent. Enfin, souvent, il y a des jeunes qui sont à la campagne. Ceux qui peuvent, ils vont faire leurs études en ville. Et parfois, ils reviennent après avec leur famille et les enfants en bas âge. Voilà. Et donc, il y a ces néo-ruraux un peu bobos urbains qui viennent pour la nature. Mais il y a aussi une population qui sont les gens qui sont repoussés des centres-villes parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter en centre-ville et qui se retrouvent dans ces villages. Et ces populations, elles ne se croisent pas. Et si elles n'ont pas l'occasion de se croiser, effectivement, elles se tensent avec beaucoup de préjugés.
C'est ça, il y a des préjugés en fait des deux côtés. On a des préjugés finalement aussi sur les néo-ruraux comme certains citadins peuvent l'avoir sur la vie à la campagne, Yael Amsalem.
Oui, typiquement, les filles entre elles ont l'impression, puis les jeunes, quand on entend en fait au collège ou au lycée comment ça se passe quand il y a des nouveaux qui arrivent, il n'y a pas souvent de nouveaux qui arrivent, donc quand il y a des nouveaux ou des nouvelles qui arrivent, ça parle beaucoup à l'adolescence. De toute façon, on parle beaucoup sur les autres. Et on voit bien comment il y a des jugements entre ceux et celles qui habitent vraiment en campagne et ceux qui habitent dans les bourgs et ceux qui habitent vraiment en campagne. Ils ont l'impression qu'on leur porte sur eux l'étiquette, le stigmate de bouseux et de bouseuses. Et typiquement, bah, faut l'encaisser aussi, ces représentations qui sont construites socialement par tout le monde sur la mise en scène des gens qui habiteraient en campagne de la campagne, comme disent les filles. Moi, j'habite en campagne de la campagne.
Ah, d'accord, en campagne de la campagne, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le dernier kilomètre, c'est ça ?
Ça serait un peu ça, on pourrait le dire comme ça. C'est, elles opposent ça à la campagne du bourg, par exemple, qui pour elles n'est pas vraiment une campagne, puisqu'il y a le bourg, donc il y a encore un commerce, il y a l'écart, il y a le collège. Voilà, les villes, les villages qui ont gagné encore l'école par rapport aux villages où il n'y a plus l'école. Et puis les hameaux où là, on est en campagne de la campagne, quoi.
D'accord. Est-ce que ces comptoirs de campagne, justement, que vous avez créés, Virginie Hills, ça peut donc tisser le lien social et même faire tomber la méfiance qu'il y a entre toutes ces campagnes.
Nous, effectivement, on n'est ni dans un camp ni dans un autre, en fait. Et en fait, c'est sous le prétexte du service, parce qu'avant tout, on est un lieu de service.
Je rappelle que donc vous avez fondé ces tiers-lieux, ces épiceries, qui sont un genre de service public, on peut le dire.
Alors, en fait, c'est des commerces multiservices, des produits, des épiceries en produits locaux, des services de proximité, dont des services proches du service public comme la poste, et un espace bistrot, un lieu de vie. Voilà, donc, et tout à l'heure, on parlait des gens qui consomment sur Amazon. Et c'est la même chose en ville. Je suis tout à fait d'accord avec M. Viard et M. Luzot. C'est pareil en ville, en fait. Les commerces qui ne font que du service, ils ne se développent plus. Même en ville, ce qui se développe, c'est les restaurants, c'est les tiers-lieux, c'est les lieux de vie. Donc nous, sous le prétexte de venir chercher sa tomate, son recommandé, son colis Amazon, on rencontre des gens. Voilà. Et on a une personne neutre, qui est la commerçante ou le commerçant, et qui est là pour apporter un service bienveillant. Et donc, ça fait partie du moment où on est un peu plus, on se sent plus serein dans sa relation avec les autres.
Et justement, Michel Lussault, on voit bien qu'on a du mal à faire la distinction aujourd'hui entre campagne, ville, puisqu'il y a ce nouveau mot qui veut dire, ce mot de périurbanisation. Est-ce que vous pouvez nous faire une courte définition, s'il vous plaît ?
Oh oui, très courte. Depuis les années 50, on constate que l'urbanisation a dépassé les centres-villes classiques et s'est en quelque sorte diffusée un peu partout en France. C'est ça la périurbanisation, c'est la diffusion de l'urbanisation de plus en plus loin des centres. Et le triomphe de cette diffusion se matérialise dans le succès du pavillon. Finalement, qu'est-ce qui montre que la France est massivement périurbanisée ? Eh bien, il y a des pavillons partout. Parce que le pavillon est devenu le modèle d'habitat auquel aspire un grand nombre de Français, en raison notamment de son jardin. Et cette périurbanisation est très puissante. Elle concerne absolument toutes les communes, petites, grandes, loin des centres, près des centres. Et comme tout mouvement de population massif, eh bien ça crée du conflit entre ceux qui étaient là et ceux qui arrivent dans différentes couches de la société à différents moments. Il y a des gens qui sont arrivés il y a 50 ans, il y a des gens qui arrivent maintenant. Et être un néo-rural en 1980, ça n'est pas la même chose qu'être un néo-rural en 2022. Comme tout mouvement, la périurbanisation crée ces conflictualités qui sont toujours des conflits qui naissent autour des usages, des modes de vie. Ils veulent la nature, mais ils construisent des haies. Ils veulent le calme, mais ils font des fêtes. Ils veulent la ruralité, mais ils n'aiment pas le change du coq. Et à l'inverse, on pourrait dire la même chose, ils ne sont pas accueillants, ils ne sont pas ouverts, ce sont des péquenauds, etc. Donc, il faut gérer cela, et la meilleure manière de le gérer, ben, c'est de ne pas opposer les populations. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il y a simplement des mouvements de population dont il faut essayer de comprendre les logiques et il faut essayer de trouver les réponses adaptées. Les lieux dont nous parlons peuvent être des réponses adaptées. Ce n'est pas toute la réponse, mais c'est une des réponses que l'on peut envisager.
Et Jean Viard, alors comment on vient donc à cette réconciliation, selon vous ? Ah, je crois que Jean Viard n'est plus avec nous. Alors cette grande réconciliation, Virginie Hills, elle passe aussi donc par ces lieux de vie. Vous en êtes à combien et combien allez-vous en ouvrir ?
Alors aujourd'hui, on a 14 magasins. Et on prévoit d'en ouvrir 500 dans les prochaines années. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on accompagne ces maires, comme Monsieur Biollet, qui se saisissent de ce sujet et qui veulent maîtriser ce sujet du commerce dans le village. Et ils ont tout à fait raison. On les accompagne, eux, et on accompagne des entrepreneurs. Et donc, ça, c'est des gens du coin. C'est potentiellement les jeunes filles dont parle Yaël, qu'on forme, qu'on accompagne à implanter ces commerces. Et encore une fois, je suis d'accord avec ce qui est dit. Il ne suffit pas de mettre n'importe quel commerce. Le commerce d'avant ne marche pas. Il faut un commerce innovant. Voilà. Donc, nous, on a éprouvé ce modèle de commerce sur 14 villages en Rhône-Alpes. Et donc, c'est le bon modèle qui, bien entendu, s'adapte en fonction de chaque village, mais qui apporte cet outil dont se saisissent les habitants et dont ils ont besoin. Voilà. Donc, on accompagne les mairies et des entrepreneurs indépendants pour ouvrir ce commerce et le pérenniser dans le temps.
Et donc, ces jeunes femmes, vous les embauchez aussi entre deux candidats, je ne sais pas, un néo-rural et une jeune fille du coin, vous prenez qui?
Alors, on favorise les jeunes filles du coin, on favorise les personnes qui sont du coin. Ce sont des entrepreneurs, donc ce sont des gens qui montrent leur propre entreprise et qu'on accompagne. Après, on s'assure qu'ils ont le profil entrepreneurial parce que effectivement c'est pas donné à tout le monde, c'est quand même quelque chose d'un peu costaud, lourd, il faut tenir ce rôle et c'est un rôle clé, il faut être capable d'avoir les épaules de tenir ce rôle parce que je dis souvent qu'après le maire, c'est souvent la personne qui a le plus de poids dans le village et beaucoup de gens ont beaucoup d'attentes derrière cette personne donc il faut être capable de tenir et donc nous on les accompagne, on les forme et on s'assure qu'ils ont le bon profil.
Sophie, une auditrice, nous dit j'habite dans une petite ville et au contraire j'ai à cœur de déménager dans une grande ville car je suis convaincue que cette grande ville peut proposer plus de possibilités de se réaliser, de travailler, de se divertir. Yalem Salem, les quelques mots de la fin, que lui répondez-vous ?
Qu'est-ce que je répondrais ? Je répondrais surtout qu'il faut essayer ce qu'on peut et ce qu'on a envie. Faut se sentir à l'aise. Après, moi, dans les filles que j'ai pu rencontrer dans les espaces ruraux, celles qui ont fait l'expérience, tenté l'expérience d'aller dans des très grandes villes, au regard de leur expérience, ça a été compliqué parce que, alors d'abord, elles se sont reconnues entre elles et elles trouvaient ça étonnant de se retrouver avec d'autres filles de la campagne. Mais en fait, on a des codes communs, on se reconnaît entre nous, bizarrement.
C'est pas l'Eldorado non plus.
Et c'est pas un Eldorado non plus, puisque il y a d'autres rapports sociaux qui se mettent en scène. Et la ville, c'est aussi un environnement qu'il faut maîtriser.
Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir accepté ce débat. Merci à Florence Gimalac pour ses lumières, à Loïs Nollet qui prépare une thèse sur le sujet et qui s'annonce très prometteuse, Constance Villanova et Savannah Ruellan, à la réalisation Étienne Bertin, à la technique Élise Christophe. Et demain dans le débat de midi, on interroge notre rapport à l'alcool. Boit-on toujours par envie? À l'heure d'été et des longs apéritifs en terrasse, y a-t-il une injonction à prendre un petit verre? On ouvre le débat. À suivre le journal de 13h.